pueblos y gobiernos del mundo.
No,
para todos.
Buenas noches.
Para todos.
Una noche en Latinoamérica, una propuesta de la Asociación Unidos para Torre Latino, Radio Campus 106.6 FM.
Yo quiero que a nivel como de moraleja, que lo único que les quede a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país, con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, sigamos, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Saben qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10-2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias.
Prendre la décision d'émigrer dans un autre pays peut être lié à plusieurs raisons. On veut apprendre une langue, vivre une expérience multiculturelle, chercher un avenir meilleur ou échapper à la terrible violence vécue dans un pays. Dans mon cas, j'ai vécu en Colombie, j'ai un diplôme professionnel, mais mon pays ne pouvait pas m'offrir le meilleur pour mon avenir. J'ai donc décidé de partir et de prendre le risque de ce que cela implique la vie à l'étranger. Après avoir vécu 8 ans à l'étranger, je deviens plus sensible à ce qui se passe dans mon pays. Quand j'y étais, je vivais dans une sorte de boule où la corruption, la violation des droits de l'homme, l'oppression, le massacre des indigènes, des enseignants, des étudiants, des personnes humbles, des leaders sociaux, se manifestaient chaque jour. C'est comme si je m'étais habituée, comme si cela devenait normal et malheureusement acceptable. Je commence donc à analyser mon pays de l'extérieur. Je le compare avec les pays dans lesquels j'habite maintenant. Je me rends compte que la liberté d'expression est un droit et pas une option, que chacun a le droit d'avoir ce que l'autre a. J'ai compris que les inégalités et les différences sociales génèrent la pauvreté, la violence et les dangers. J'ai compris que ces inégalités ne devraient pas être normales ou acceptées dans mon pays. J'ai compris que tuer des innocents, que mentir aux citoyens du peuple, ce n'était pas normal. J'ai compris que cela ne devrait pas continuer à se reproduire. Mon peuple colombien souffre chaque jour et verse les sangs de ses citoyens innocents, fatigués des temps d'injustice, d'oppression, des corrompus qui dirigent le gouvernement, qui abusent du pouvoir, qui ne respectent pas la liberté, la dignité humaine et qui jouent avec la douleur du peuple. Je commence à voir les manifestations des étudiants, des indigènes de tous les pays, des professeurs des écoles publiques et privées, des acteurs de théâtre, des écoles d'art qui marchent pour la vie, pour un monde meilleur. C'est depuis l'étranger que j'ai compris que mon peuple n'en peut plus et qu'il est fatigué. Je commence à regarder l'histoire de mon pays, des pays d'Amérique latine, et je me suis rendu compte que les groupes armés ont été créés par ces mêmes sentiments de harcèlement, de fatigue et de désespoir pour trouver une solution, pour arrêter cette classe de droite, les oligarques qui ont fait du peuple latino-américain ce qu'ils ont voulu et qui continuent aujourd'hui.
Una noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino, para Radio Campus 106.6.
Moi, j'ai grandi comme n'importe quelle fille qui jouait avec des poupées. Peu de temps après, je commençais à jouer au basket, au football, ignorant que cette époque, dans les années 80 et encore les années précédentes, mon pays et toute l'Amérique latine vivaient un moment désastreux qui envahissait mes compatriotes avec de la peur, des larmes, des massacres et de la dépossession des terres. À cette époque, j'étais petite. Je ne réalisais pas l'environnement dans lequel je grandissais. Les années ont passé et j'ai décidé de m'installer à l'étranger. Et c'est à ce moment-là que ma pensée a pris un virage à 180 degrés. Je commençais à découvrir des personnages qui, tout au long de ma vie, m'ont inculqué qu'ils étaient mauvais et ne voulaient que le mal pour mon pays, qui ne pensaient qu'à détruire, à obtenir le pouvoir, et qui c'étaient les problèmes, les cancers de l'Amérique latine. J'ai commencé à découvrir que ce n'est peut-être pas comme ça, qu'il y avait des raisons pour qu'une population pauvre commence une révolution. Moi, je commence à le percevoir avec un autre regard. Je commence à analyser les discours et à comprendre pourquoi ces groupes de guérillas latino-américaines sont nés. L'Amérique latine est une région qui a vécu et dans certaines régions vit encore des périodes de confrontation les plus violentes de l'histoire. La présence de différents types de groupes armés en raison des démocraties faibles, corrompues et mal mises en œuvre a provoqué de longues périodes d'insécurité et de violence dans plusieurs pays de l'Amérique latine. La démocratie doit être fondée exclusivement sur des élections libres et transparentes, avec une organisation efficace et équitable du pouvoir, de manière à ce que la population et les droits de l'homme soient respectés. Cependant, les conditions réelles des élections libres ou la volonté des gouvernements de protéger leurs citoyens et leurs droits ne sont pas toujours prises en compte dans cette partie du monde. Les manques de capacité de l'État pour couvrir les besoins essentiels d'une grande partie de la population et gérer efficacement les conflits sociaux favorisent l'émergence des groupes criminels organisés. Les conflits armés, les trafics de drogue, la corruption et davantage de pauvreté. Je vous invite à découvrir dans cette série des 5 guérillas les plus importantes de l'Amérique latine un peu de l'histoire et pourquoi elles sont apparues.
Una noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino, por Radio Campus 106.6.
Le Parti communiste du Pérou, connu sous le nom de Sendero Luminoso, est une organisation subversive et terroriste qui, en mai 1980, a déclenché un conflit armé contre l'État et la société péruvienne. Parti péruvien d'idéologie marxiste fondé par Abimael Guzmán, connu sous le pseudonyme de Président Gonzalo, au Pérou 1969. La confrontation entre la formation du président Gonzalo et le gouvernement péruvien peut être décrite comme une authentique guerre civile. Ce groupe est né le 21 juin 1969. Ses principaux personnages étaient des dirigeants importants du Front pour la défense du peuple d'Ayacucho, des professeurs de l'université de Huamanga, dont Abimael Guzmán, qui deviendra quelques mois plus tard le chef principal du Sendero Luminoso. Le Pérou, à cette époque, connaissait l'euphorie des premiers mois de gouvernement de forces armées dirigées par le général Juan Velasco, de la nationalisation du pétrole et de la menace des représailles nord-américaines. La loi de la réforme agraire s'annonçait radicale et décisive. la fureur des paysans et des citoyens aînés, en plus de la crise économique à Ayacucho et Huanta. Elle a été l'aboutissement de plusieurs semaines de mobilisation au cours desquelles les étudiants ont rejoint les paysans. Leur objectif était la restitution complète de la gratuité de l'éducation, le soulèvement massif de la lutte pour la terre, en plus du rôle de l'éducation comme canal de mobilité sociale dans les Andes péruviennes. La pauvreté associée à l'oppression du servage, à la discrimination ethnique et à l'exploitation des propriétaires terriens a conduit une grande partie de la population à émigrer et ceux qui sont restés dans la région ont vécu dans de très mauvaises conditions. Tous ces facteurs associés au développement de l'éducation et à la réouverture de l'université d'Ayacucho ont créé un cadre idéal pour l'émergence de différents groupes politiques qui finiraient par se radicaliser dans les Sendero Luminos. Les massacres ont laissé plus de 26 000 morts, 4 000 disparus et 5 000 orphelins. Les chiffres de la commission Vérité et Réconciliation créée par les gouvernements dans les années 1990 a relevé que 54% des victimes faisaient partie du Sendero Luminoso et 46% de l'armée péruvienne. Parmi eux, 80 d'hommes, dont 66% ayant entre 20 ans et 49 ans, 56% étaient des paysans andins analphabètes à 68% et des langues quechua pour les trois quarts d'entre eux. Une étude universitaire parue en 2019 conteste le chiffre de la Commission Vérité et Réconciliation. Selon elle, les conflits auraient fait 48 000 victimes, donc une majorité provoquée par les opérations de l'armée péruvienne et de ses auxiliaires. Les forces armées et les comités d'autodéfense ont réussi à expulser les Sendero Luminoso de leur zone d'influence, capturer son premier chef, diviser et ainsi réduire les groupes et enfin mettre fin aux actes terroristes. Alberto Fujimori, ancien président de la République du Pérou de 1990 à 2000, a répandu une propagande pendant des années pour couvrir les violations des droits de l'homme par les forces armées. La Commission Vérité et Réconciliation a été créée pour dénoncer de tels événements et faire naître la vérité. La vérité de tout cela, ce sont les exécutions extrajudiciaires en décembre 1984, lorsque les militaires ont fait croire aux paysans qu'ils allaient les protéger et les aider. Ils les ont obligés à creuser une piscine, prétendant que ça serait une ferme piscicole pour développer leur économie. Mais ils les ont ensuite obligés à s'arrêter devant la piscine et ils les ont assassinés et enterrés dedans. De tels actes n'ont aucune justification judiciaire et ont été commis car ils soupçonnaient ces paysans d'avoir des liens avec les senderistas. Les militaires l'ont fait pour voler leur bétail et les vendre. Enfin, bien que le rapport final de la Commission Vérité et Réconciliation ait été publié en 2003 et vise à présenter une véritable histoire officielle qui s'oppose à celle créée de toutes par Alberto Fujimori, toute la vérité n'a pas été révélée et aujourd'hui encore, de nombreux Péruviens attendent toujours des explications sur les proches décédés ou disparus. Retrouvez-moi dans mon prochain épisode où je vous parlerai de deux guérillas très connues, et l'Ejército Zapatista du Mexique et la Révolution Sandiniste de Nicaragua. À très bientôt.